Il est 8h sur France Inter. Voici le journal de Serge Martin. Bonjour Serge.
Bonjour Eric, bonjour à tous. La fin des ampoules halogènes à la une de ce journal. Des ampoules qui ne seront plus fabriquées en Europe à compter de ce 1er septembre. Place au LED. Éclairage sur ce dossier dans un instant. Dans l'actualité également, la mort hier en Ukraine d'un opposant pro-russe lors d'un attentat. Une disparition qui fait beaucoup de bruit en Russie, nous dira notre correspondant. Et puis à l'étranger toujours, pas de présidentielle pour Lula, dont la candidature a été invalidée cette nuit par la justice brésilienne. Côté politique, un François Hollande offensif, l'ancien président à Cherbourg, pour une séance de dédicace, n'a eu de cesse de critiquer son successeur sans jamais le nommer. Plus que quelques heures avant la rentrée scolaire, lundi, vous nous en parlez à 8h20, Eric, en compagnie de votre invité.
Oui, Cécile Rilhac, elle est députée La République En Marche du Val d'Oise, elle est membre de la Commission des Affaires Culturelles et de l'Éducation. On signale aussi qu'elle est auteure d'un rapport qui fait sens sur les directeurs d'école. Vos questions dès maintenant à la députée Cécile Rilhac, c'est au 01 45 24 7000.
Et puis à 8h10, le journal des sports présenté par Valentin Riglet-Burussi. Au sommaire, la victoire de Nice sur Lyon en football, la fin du mercato, sans oublier le tennis à Flushing Meadows avec un match laborieux de Nadal, finalement vainqueur, alors que Serena a éclipsé sa sœur Vénus.
France Inter.
Une révolution donc dans le monde de l'éclairage, 6 ans après la fin des ampoules à incandescence, voilà que les lampes halogènes, jugées trop gourmandes en électricité, vont à leur tour disparaître au profit des LED. À compter de ce samedi 1er septembre, plus aucune ampoule halogène ne sera désormais fabriquée en Europe. Les magasins ne pourront donc plus en recommander, mais seront toutefois autorisés à écouler leur stock jusqu'à épuisement. Apparues en 1960, ces ampoules LED ont connu quelques transformations avant de devenir aujourd'hui le standard de l'éclairage domestique.
Une LED, c'est un composant électronique qui émet de la lumière lorsqu'il est traversé par de l'électricité. Derrière la veilleuse de votre télé, les phares de la voiture ou les projecteurs du stade, il y a une même technologie, mais des recettes différentes. Au départ, seules les LED bleues existaient. Ensuite, quand dans les années 90, les LED rouges et vertes ont été inventées, il a été possible, en superposant les trois couleurs, d'obtenir une lumière blanche. Peu gourmande en énergie et très efficace, ces ampoules numéro 1 des ventes sont bon marché. C'est pourquoi on a assisté à une inflation déraisonnable. On s'est mis à éclairer tout et n'importe quoi, jusqu'au cri d'alerte lancé contre la pollution lumineuse par les astronomes. Cette lumière contrarie les ciels étoilés, elle contrarie aussi les organismes. Au début, les LED produisaient une lumière agressive, froide, un blanc de réfrigérateur. Désormais, les recherches portent sur des couleurs plus chaudes. Pour cela, il faut modifier les procédés de fabrication et jouer avec les propriétés intrinsèques des matériaux. Le nitrure de gallium, le cérium, le carbure de silicium sont des semi-conducteurs recherchés par les physiciens. Ils émettent justement à une longueur d'onde qui donne une lumière plus jaune, plus douce pour l'œil.
Sachez toutefois que deux modèles d'halogènes, les petits tubes R7 servant dans les lampadaires et les capsules G9, resteront commercialisés. Et puis sachez qu'à compter de ce 1er septembre également, tous les pesticides contenant des néonicotinoïdes, tueurs d'insectes et tout particulièrement d'abeilles, sont désormais interdits. Interdits à la vente mais aussi à l'usage. Une décision prise en 2016 mais seulement mise en application aujourd'hui.
Une mort qui fait beaucoup de bruit en Russie, la mort d'un opposant au pouvoir ukrainien.
Qui a tué Alexandre Zakharchenko, le leader à Donetsk des séparatistes pro-russes du Donbass? Le principal chef séparatiste ukrainien a été tué hier lors d'un attentat en plein centre-ville. Un assassinat dénoncé par Vladimir Poutine qui a immédiatement diligenté une enquête au-delà de ses frontières. Moscou, Claude Brouillot.
Pour le Kremlin, il ne fait aucun doute que les services de sécurité de Kiev sont derrière l'attentat qui a coûté la vie, entre autres, au leader de la DNR, la République populaire de Donetsk. La mort violente du numéro 1 séparatiste est considérée par le ministère russe des Affaires étrangères comme extrêmement grave et à même de déstabiliser la situation dans le Donbass. Vladimir Poutine en personne, dans un communiqué officiel, a présenté ses condoléances aux habitants de Donetsk et salué Alexander Zakharchenko comme un véritable leader populaire et un homme courageux et déterminé. Le président russe a présenté les auteurs de l'attentat comme étant les partisans de la violence et de la terreur, laissant entendre que le pouvoir ukrainien a tout intérêt à la déstabilisation du Donbass avant les législatives de 2019. Alors que la Russie a toujours nié soutenir les séparatistes à Donetsk et Lugansk, son comité d'enquête nationale, instance chargée des dossiers criminels en Russie, s'est rapidement auto-saisi de l'affaire en évoquant, je cite, « un acte de terrorisme international ». Moscou, Claude Brouillot, France Inter.
Le reste de l'actualité à l'étranger, en bref, l'ancien président brésilien Lula ne pourra finalement pas se présenter à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Ainsi en a décidé cette nuit le tribunal supérieur électoral brésilien, déclarant inéligible Lula, actuellement emprisonné pour corruption. Et puis les États-Unis ont par ailleurs décidé de ne plus financer l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, agence qui aidait environ 5 millions de réfugiés palestiniens exilés depuis la création de l'État d'Israël en 1948.
En France, la entrée politique de François Hollande. Hier, il a mis à profit un déplacement à Cherbourg pour faire un peu la leçon à son successeur.
Invité en effet hier par son ami, ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, François Hollande en a profité, et a profité plus exactement d'une séance de dédicace pour son livre Les leçons du pouvoir, pour tacler Emmanuel Macron. La leçon d'un ancien président à son successeur, sans toutefois jamais le citer. Le reportage à Cherbourg de Simon Le Baron.
Le prélèvement à la source.
Je ne veux pas ici compliquer la tâche de ceux qui hésitent encore. Mais ce que je peux dire, c'est que cette réforme, elle était prête.
Les européennes à venir et la montée des populismes.
Le libéralisme n'est pas l'ennemi du populisme. Le libéralisme entretient le populisme.
François Hollande à l'offensive, sans jamais citer Emmanuel Macron. Et pourtant, il en aurait des conseils à donner à son successeur, lui qui était devenu, du temps de l'Élysée, un spécialiste des rentrées difficiles.
Toutes les rentrées sont difficiles. Ce qu'il faut, c'est prendre les bonnes décisions. Il faut savoir quelle est la bonne direction. Pas simplement être dans le contentement de soi.
De quoi rappeler à ceux qui en doutaient que François Hollande n'est pas de retour, puisqu'il n'est jamais parti.
J'entends parler de retour. Certains, sans doute avec sincérité. D'autres, avec effroi. Je le sais bien. Je ne suis jamais parti de la vie politique. L'avenir de mon pays et la vie des Français sont les préoccupations légitimes de tout ancien président ou de tout responsable qui a exercé des fonctions dans l'État.
Et le salut de la France, et au-delà de l'Europe et du monde, il passe par la social-démocratie, et ça, François Hollande y croit encore. Cherbourg, Simon Le Baron, Mathieu Perrault, France Inter.
Le prélèvement à la source des impôts, comme l'évoquait à l'instant François Hollande, une décision prise pour le 1er janvier prochain, mais sur laquelle Emmanuel Macron laisse planer le doute. Peut-être en saurons-nous un petit peu plus ce matin, puisque le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, sera l'invité d'Alexandra Ben Saïd à 9h10 sur France Inter dans l'émission N'arrête pas l'écho. On attend du monde, beaucoup de monde, aujourd'hui et demain à Lille, pour la grande braderie qui commence en ce moment même. Près de 2 millions de visiteurs sont en effet attendus, mais ce n'est pas là la seule indication chiffrée à donner le tournis, Guillaume Fariol.
Pour cette édition 2018, 45 km de rue sont consacrés à la braderie. Allez, petit calcul rapide, sachant que les brados s'installent sur les deux trottoirs, ça fait donc au total 90 km d'étal dans les rues de Lille, soit un peu plus que la distance entre la capitale des Flandres et Maubeuge. Forcément, il faut beaucoup de monde pour encadrer l'événement. Comptez 650 agents municipaux mobilisés avant, pendant et après la braderie, en charge de l'organisation, mais aussi du nettoyage une fois les festivités terminées. Sur le plan de la sécurité, cette année encore, la municipalité a prévu un dispositif impressionnant. 1500 km de barrières, 1200 tonnes de blocs de béton pour fermer les routes. Déploiement humain exceptionnel également. 3000 membres des forces de l'ordre quadrilleront la braderie ce week-end. Et puis, enfin, n'oublions pas les incontournables moules. 500 tonnes devraient être consommées jusqu'à demain soir.
Guillaume Fariol, une braderie de Lille qui prendra fin demain dimanche à 18h.
Et pour refermer votre journal, Serge, un détour par Deauville et son festival.
Un festival du cinéma américain qui a rendu hommage hier soir lors de la soirée d'ouverture à un comédien australien, l'acteur Jason Clarke, venu présenter le film de John Curran, Le secret des Kennedy. Hommage donc de la présidente du jury, Sandrine Kiberlin, Nolwenn Lejeune.
Sandrine Kiberlin s'est d'abord beaucoup amusée sur le tapis rouge en expliquant pourquoi elle a choisi les membres de son jury. Parce que, par exemple, je déteste Sabine Nazema, ou parce que Stéphane Brisé est musclé, pas parce que j'ai tourné avec lui. Et puis c'est avec émotion et gravité qu'elle a ensuite rendu un hommage appuyé à Jason Clarke.
Depuis vos débuts sur les planches de Melbourne, vous portez l'excellence et faites le plus grand des honneurs à notre métier d'acteur. Vous êtes fidèle au cinéma indépendant américain, vous imposez votre présence tout en insufflant de l'esprit dans les blockbusters, dans Everest, dans La planète des singes ou dans Terminator.
L'acteur australien qui est en train de devenir un habitué des planches, 3 participations en 8 ans, ça méritait bien quelques mots d'amour.
Je t'aime, France. I really do.
La France qui est devenue sa deuxième maison, explique-t-il. Ses enfants sont français, l'amour de sa vie, son épouse Cécile, est française. Il explique avoir appris beaucoup en découvrant notre pays. Et tout en présentant un film profondément américain, où il incarne avec justesse le sénateur déchu Ted Kennedy, il conclut en appelant les trois pays à toujours travailler ensemble pour continuer de donner le meilleur au cinéma.
Merci beaucoup.
Le Festival du cinéma américain à Deauville, donc jusqu'au 9 septembre. En attendant, c'est la fin de ce journal. Et c'est à vous, Éric Delvaux.
Merci, Serge Martin. Sandrine Kiberlin, que vous avez entendu, elle sera aussi l'invitée à 10h de l'émission On aura tout vu, Laurent Delmas, Christine Masson, en direct donc de ce 44e Festival du cinéma américain de Deauville.